Hola chica, bienvenue sur Nectar Sun. Je suis Myriam Zen, spécialiste en estime de soi et créatrice du programme La Saison du Oui. Dans ce podcast, nous explorerons des thématiques comme l'estime de soi, les relations amoureuses ainsi que divers sujets sociétaux propres à notre génération. Mon objectif, t'offrir des clés pour enrichir ta réflexion et renforcer ta confiance en toi. Hola chica, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, j'ai juste un petit rhume que tu entendras je pense un petit peu. Aujourd'hui j'avais envie de te parler de respect parce que c'est quelque chose qui revient énormément. Que ça soit dans mes coachings, dans la saison du oui, quand on se met en colère très souvent, c'est qu'il y a une part de manque de respect. Mais surtout, en ce moment je travaille sur la nouvelle formation qui sort la semaine prochaine. Sur le charisme, et il y a cette notion de respect qui est capitale en fait dans le charisme, parce que généralement on respecte les gens charismatiques. Vous allez voir, aujourd'hui je vais vous parler de sujets sensibles, je suis désolée si ça vous heurte, je sais que parfois je peux dire des choses qui heurtent, mais c'est que je m'en rends bien compte autour de moi, parfois il faut creuser au fond de la vérité pour espérer voir un changement, alors je crois que je dois vous dire la vérité. Aujourd'hui, je vais vous lire le dernier avis sur Apple Podcasts qui m'a fait énormément plaisir. Je cite « Hello Myriam, tes podcasts sont réellement une bouffée d'air frais. Je ne trouverai pas les bons mots pour les qualifier. Nous apprenons beaucoup de choses avec toi et surtout j'adore recevoir la notification qui m'informe qu'il y a un nouveau podcast. Bise et continue s'il te plaît à partager avec nous ce magnifique travail. Kaina98. Merci infiniment Kaina, ça me fait tellement, tellement plaisir. C'est parti, on va tout de suite passer à notre sujet. Le respect, je pense que je n'ai pas besoin de le déterminer, c'est quelque chose qui se gagne par ce qu'on accomplit. C'est pas quelque chose qui est offert à la plupart des gens comme ça, même si ça le devrait, mais ce n'est pas comme ça que fonctionne la nature humaine. Ça se gagne petit bout par petit bout par petit bout. Et reste bien jusqu'à la fin, j'ai mis plusieurs points, je pense que j'en ai mis 10. Reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai mis le plus intéressant selon moi en dernier. Et surtout, surtout, écoute cet épisode en mettant ton ego de côté. Parce que ton ego ne peut pas entendre, mais si tu le mets de côté, ton toi supérieur peut entendre et donc peut changer. Et c'est hyper important, ça c'est capital, de se regarder droit dans les yeux. Parce que c'est en se regardant droit dans les yeux qu'on peut espérer un changement. Allez, c'est parti. La première raison qui fait qu'on ne te respecte pas, c'est que tu dévoiles tout de ta vie et trop vite. Je crois que j'en ai déjà parlé beaucoup, beaucoup de fois. Je ne sais pas comment font ces gens. Il y a quelques mois, j'étais dans un café et il y avait une femme qui, je pense, avait besoin de beaucoup d'attention, qui commençait à râler, à parler fort, à faire du bruit, etc. Et pour attendre son café, il me semble, elle s'est posée à ma table puisque j'étais seule. Et elle a commencé à me parler et je sentais qu'elle en avait gros sur la patate. Et en 30 minutes, même pas, elle m'avait parlé de ses problèmes les plus profonds. Et personnellement, je sais, dû à mon métier, que ces gens ont besoin de parler parce qu'il y a un manque émotionnel. Et je comprends vraiment ça et je le comprends totalement, d'accord? Mais j'ai aussi côtoyé des gens qui ne parlaient de leurs problèmes qu'à une ou deux personnes spécifiques, ou sinon à un psy ou un coach. À votre avis, qui est là ou le plus respecté? Est-ce que c'est la personne qui va tout déballer en 30 minutes ou est-ce que c'est la personne qui va garder ses problèmes pour une ou deux personnes spécifiquement? Malheureusement, la nature humaine, elle est ainsi faite et on respecte moins les gens qui délivrent tout sur un plateau d'argent. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est la réalité. Deuxièmement, tu n'as aucun pouvoir. En fait, j'ai pas envie de m'excuser à chaque fois. Donc, pour une fois pour toutes, sachez que je vais dire encore des choses qui vont vous heurter, dont ce point-là. Tu n'as aucun pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut comprendre que dans le charisme, il y a une composante, et je vous en parlerai plus en détail la semaine prochaine dans un épisode totalement dédié au charisme. L'une des composantes du charisme, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, ça peut être une expertise dans un domaine, ça peut être une compétence, ça peut être l'autorité, l'argent, le statut social, ou encore l'endurance physique. D'accord? J'aimerais vous dire que c'est nul de penser comme ça. J'aimerais vous dire que qu'est-ce que tu racontes? On ne peut pas respecter une personne parce qu'elle a du pouvoir et ne pas en respecter une autre parce qu'elle n'a pas de pouvoir. Mais c'est ainsi que notre société est construite, qu'on le veuille ou non. Imaginons, tu évolues dans le monde du tennis. tu prends des cours de tennis, tu évolues dans ce monde-là. Tu respecteras beaucoup plus ceux qui sont forts dans le tennis. Et ça de manière totalement inconsciente. Tu vas respecter, totalement inconsciemment, ce qui donne du pouvoir dans le tennis. Ça peut être un haut niveau dans ce domaine-là. Ça peut être une phrase comme « Ah, je me suis payé une place pour aller voir un tournoi à Roland-Garros ». Ça peut être une personne qui porte une montre Rolex ou partenaire en tout cas et qu'on voit très souvent sur les terres battues du tennis. De manière totalement inconsciente, que va faire ton cerveau? C'est qu'il va créer des connexions. Sans que tu t'en rendes compte, il va créer des connexions. Parfois, je vois très souvent des personnes qui ont un pouvoir, mais qui le cachent, qui ne le disent pas. Notamment, je pense à certains hommes qui vont cacher qu'ils ont de l'argent, qu'ils ont un pouvoir social important, juste pour ne pas attirer, comme ils disent, des michetonneuses, des femmes croqueuses de diamants. Ça, c'est une stratégie, d'accord? C'est dans un domaine particulier, mais je parle de manière générale, ok? Et parfois, il y a des gens qui ont du pouvoir, mais qui le cachent, qui ne savent pas du tout comment le mettre en avant de manière subtile. Ok, ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, la troisième raison, c'est que, évidemment, et je pense que ça tu le sais, c'est que tu es une gentille fille, et donc tu te laisses marcher dessus, tu as un manque terrible d'estime de toi, tu es une ou un béni oui-oui. Désolée, mais si vous avez le syndrome de la gentille fille, ou qu'il n'y a aucune tension parce qu'on sait que vous êtes un béni oui-oui, que vous ne voulez pas blesser l'autre personne alors que vous n'allez pas lui dire ce que vous avez sur le cœur, ou mettre vos limites, bon ça on en parlera juste après, que vous ne voulez pas mal faire, alors oui, les gens, dans leur échelle inconsciente, vous serez tout en bas. Et je pèse mes mots, vous serez tout en bas. Je raconte souvent cette histoire, mais moi-même, quand j'étais dans le syndrome de la gentille fille et que j'étais dans mes études supérieures, ce jour-là, j'étais dans le bus avec cette copine, que je considérais comme ma copine, hein, d'accord? Et on avait un contrôle juste après, elle m'a demandé mes fiches pour les prendre en photo, parce qu'elle n'avait pas révisé. Et elle a pris cette photo, et en descendant du bus, elle a tracé devant moi, comme je n'ai jamais vu quelqu'un tracer, me fuir. Et en fait, j'étais outrée. J'ai eu énormément de tristesse, énormément de peine. Et j'ai compris, à ce moment-là, que dans son échelle du respect, j'étais tout en bas. Mais vraiment, tout en bas. Et les chicas, je vous jure de vous dire ça, c'est dur. De ne pas avoir d'ego pour trouver des excuses, comme ci et comme ça. En fait, ce sont des mini-situations que vous allez accumuler, une par-ci, une par-là, les unes après les autres. Et quand vous les accumulez, là vous comprenez qu'il y a quelque chose qui cloche, mais pas des autres. Parce que les autres, ce sont des humains, de vous. La quatrième raison, c'est que tu n'imposes jamais tes limites, tu ne t'affirmes pas. Alors ça, je l'ai sorti et je l'ai distingué du syndrome de la gentille fille parce que je pense que parfois, tu as une bonne estime de toi, assez bonne. Mais il y a ce gros problème qui est je ne sais pas m'affirmer, je ne sais pas dire quand quelque chose ne me plaît pas. Et j'ai eu un cas, nous avons eu un cas en coaching de groupe dans la saison du oui, où une femme s'est faite coacher sur sa collègue de travail qui l'attaquait par des mini-agressions. Des blagues détournées, vous savez, ce genre de sarcasme. Mais cette collègue était crainte par les autres. Et ce qui est ressorti, c'était ultra intéressant, ce qui est ressorti, c'est que oui, elle imposait ses limites de façon verbale, mais le non-verbal ne suivait pas. Et là est tout le problème. Le non-verbal est capital, il doit être en adéquation avec ce que vous dites. Avec ce que tu dis, et parfois le message que tu envoies est pire encore que de ne rien dire parce que tu envoies un message contradictoire. Un message de « ok, je te dis les choses, mais pas trop quand même ». Et ça c'est pire. C'est pire que de ne rien faire. Donc voilà, la quatrième raison, c'est que tu n'imposes pas tes limites, tu ne t'affirmes pas. La cinquième raison, c'est que tu ne rentres pas dans le système de valeurs des gens. Et ça, je pense que ça vous est tous déjà arrivé. Si l'on ne vous respecte pas, c'est parce que vous ne rentrez pas dans le système de valeurs de ces gens. Et la meilleure manière de voir ça, c'est quand vous êtes dans l'espace commentaire d'Instagram. Il y a toujours des gens pour critiquer, même quand vous faites le bien. Même quand vous avertissez sur certains comportements, les gens ont du mépris pour ceux qui ne rentrent pas dans leur système de valeurs. Et je crois que l'humain peut être réellement et terriblement méchant dans ce cadre-là, parce que ça touche à une part fondamentale, les valeurs, les principes. Et tout ça est intrinsèquement relié à notre identité. Et vous, je pense que, regardez-vous aussi. Quand est-ce qu'en fait, vous avez eu très 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 peu de respect pour une personne? Quand votre système de valeurs a été bafoué? Et oui, quand votre système de valeurs a été bafoué, là vous ne respectez plus rien du tout, vous ne respectez pas les gens, en fait. Vous ne les respectez pas. Le sixième point, c'est que tu ne représentes aucunement une menace pour les autres. Il y a une différence entre ne pas du tout représenter une menace et être dans la neutralité. On ne sait pas si vous pouvez être une menace ou pas. Je vais vous expliquer. Je pense que ça, c'est quelque chose que personne ne vous dit, parce que je pense que c'est tabou, totalement. Mais d'une certaine manière, ce sont des jeux invisibles, mais des jeux qui sont bien présents. Et vous pouvez surtout le voir dans le cadre professionnel. Je vais vous donner un exemple. Si Vladimir Poutine est largement, largement craint et respecté, c'est parce qu'il est perçu comme une menace majeure pour les pays de l'Ouest, mais en fait même pas que pour les pays de l'Ouest, pour le monde entier. En revanche, François Hollande, qui était l'ancien président français, a été largement méprisé et même complètement ridiculisé à un moment donné quand il trompait sa compagne en allant acheter des croissants pour sa maîtresse, car il ne représentait rien qui puisse être perçu comme une menace. En réalité, il s'est fait attraper en train d'offrir des croissants à sa maîtresse. Son ex-compagne a sorti un livre à charge contre lui et il a perdu son image d'homme d'État. Et quand je vous dis qu'il a perdu son image d'homme d'État, c'est que au moment où j'étais en Afrique du Sud, François Hollande était dans la sauce. Et un jour, on avait rencontré un guide qui nous avait parlé de François Hollande en nous disant vraiment qu'il avait une image mais tellement ridicule à l'international, c'était terrible. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens vont oser des choses parce qu'ils ne voient aucune menace. Je sais, vous pouvez peut-être me prendre pour une folle à dire ça, mais c'est ainsi qu'est la nature humaine. Quand les gens ne voient aucune menace de votre part, ils vont oser beaucoup plus. Ils vont beaucoup plus potentiellement dépasser vos limites. D'ailleurs, je fais une parenthèse pour te dire de partager cet épisode dans ta story Instagram et n'hésite pas à me mentionner. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous m'écoutez alors que vous marchez, vous faites votre sport, vous faites votre ménage ou la cuisine ou même que vous travaillez. L'autre fois, il y a une chica qui m'a dit quoi ? Je m'endors avec tes podcasts. J'étais là, quoi ? Tu arrives à t'endormir avec mes podcasts ? Waouh ! Tellement fou ! En tout cas, n'hésite pas à partager cet épisode, à me mentionner, comme ça je te repartage, ça fait trop plaisir. Et on reprend tout de suite. La septième raison, et celle-là est pour moi tellement importante, la septième raison, c'est que tu montres trop tes besoins. C'est évident pour les autres, les gens peuvent lire en toi comme dans un livre ouvert, ils ne peuvent pas te respecter. En fait, quand tu montres que tu ne peux pas te passer des autres, ça se ressent. Ça se ressent énormément. Et je vais te raconter une petite histoire, celle de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Ça commence en 2017. Il y a un groupe de princes qui sont sortis dans le désert, dans le sud de l'Irak. Donc il faut comprendre que le Qatar, géographiquement, est entouré par l'Arabie Saoudite. Il n'a qu'une frontière avec l'Arabie Saoudite et sinon il a tout un accès au golfe Persique, ok ? C'est en face, à peu près en face des Émirats de Dubaï, des Émirats Arabes Unis, et à côté il y a le Bahreïn, d'accord ? Mais sinon, la voie terrestre, elle est la seule frontière qu'ils ont, c'est avec l'Arabie Saoudite, ok ? Alors, en fait, il y a un groupe de princes qui sont sortis dans le désert, dans le sud de l'Irak. Donc, pour rejoindre l'Irak, ils ont dû passer par l'Arabie Saoudite. Ils sont passés par l'Arabie Saoudite, ils étaient protégés, et ils sont partis pour chasser le houtard de Oubara. C'est un oiseau qui est un mets très très demandé, donc ils vont dans des plaines un peu reculées pour le trouver. C'est donc une région très reculée, chiite, et contrôlée davantage par l'Iran, et là se passe quelque chose d'incroyable, mais pas tant que ça non plus, ils se font encercler par des terroristes qui leur demandent une rançon. La rançon a atteint des proportions énormes, parce qu'il y avait des princes qataris, d'accord ? Donc là, on avait des grands groupes révolutionnaires chiites et iraniens qui demandait énormément d'argent au Qatar. Donc le Qatar se retrouve dans une position extrêmement difficile parce que d'une certaine manière ce sont des terroristes, donc si ils acceptent de payer la rançon, ils donnent de l'argent à des terroristes, et d'une autre part, il y a des membres de la famille royale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Donc les négociations vont durer 18 mois, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, elles vont durer 18 mois. Donc ils vont les tenir en otage d'une certaine manière en Irak. Et d'après ce qui est sorti dans la presse, le Qatar aurait payé finalement 1 milliard de dollars pour libérer tous ces gens, d'accord ? Et comment l'Arabie Saoudite a vu cette situation, puisque l'Arabie Saoudite, il faut le comprendre, est l'ennemi juré de l'Iran, tout simplement en se disant que le Qatar a donné de l'argent à l'Iran, le pire ennemi de l'Arabie Saoudite, si vous ne le saviez pas. Donc l'Arabie Saoudite se dit quoi ? Ok, on doit régler le problème du Qatar. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils prennent comme prétexte le fait qu'ils aient donné de l'argent à des milices iraniennes, des terroristes, etc. Et ils vont créer une énorme campagne pour salir le Qatar et dire qu'ils financent des groupes terroristes. Donc, ils ont commencé par pirater l'AFP du Qatar et ils ont publié de fausses informations de l'émir, comme quoi il aurait dit qu'il se rapproche de l'Iran, qu'il respecte l'Iran, etc. Donc l'Arabie Saoudite voulait accuser le Qatar d'être trop proche de l'Iran et des terroristes. Donc tous ces faux discours qui ont été attribués à l'émir du Qatar sont utilisés pour déclencher un embargo. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Le 5 juin 2017, il y a un blocus maritime, terrestre et aérien qui est créé de la part de l'Arabie Saoudite. Le problème, c'est qu'il y a des pays qui sont dans la coalition saoudienne, on va dire les amis politiques de l'Arabie Saoudite. Donc, ce ne sont pas seulement l'Arabie Saoudite qui va fermer ses frontières et toutes les relations économiques avec le Qatar. Non, ce sont les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, le Bahreïn, le gouvernement yéménite, le gouvernement libyen, la Mauritanie, les Maldives, les Comores, qui annoncent la rupture de leurs relations diplomatiques avec le Qatar. La flotte de Qatar Airways ne peut pas décoller. Il y a plusieurs compagnies aériennes comme Etihad, Emirates, Fly Dubai, Air Arabia, ainsi que la Saoudia et Gulf Air, qui suspendent leurs vols en direction du Qatar. Et l'Arabie Saoudite annonce la fermeture des bureaux de la chaîne Al Jazeera, qui appartient au Qatar, à Riyad. Le Tchad et le Niger rappellent leur ambassade. Et en fait, là, on voit qu'il y a vraiment une crise, énorme crise politique, puisque le Qatar est très à la base, en tout cas c'est comme ça qu'on le voyait, on avait l'impression que le Qatar était extrêmement dépendant de l'Arabie Saoudite et de tous ces pays arabes qui étaient autour. Donc dans la foulée, et pour éviter une pénurie de lait, le Qatar décide de faire acheminer 4000 vaches élevées en Australie et aux États-Unis qui sont transportées par 60 avions de la compagnie Qatar Airways. Le coût de l'opération aura dépassé les 7 millions d'euros. En juin, il y a... Ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant et je trouve d'assez beau. La Somalie, qui aura refusé 80 millions de dollars de la part de l'Arabie Saoudite en échange de son soutien au boycott contre le Qatar. C'est une petite parenthèse que je vous fais là, mais pour vous montrer qu'en fait, la Somalie, c'est un pays assez incroyable par rapport à sa loyauté politique. Je trouve que c'est pas mal parce que le pays voulait rester neutre. Donc ils ont refusé 80 millions de dollars de la part de l'Arabie Saoudite alors qu'ils étaient dans une situation difficile à l'époque. Le Maroc, lui, n'a pas pris parti mais a envoyé des aides alimentaires et a maintenu ses vols avec le Qatar. Et en fait, en gros, tout le monde a prédit que le Qatar ne pourrait supporter ce blocus et que cela allait considérablement les affaiblir. Qu'est-ce qu'il se passe quand vous faites un blocus et que vous voulez affaiblir économiquement un pays ? Vous créez de l'instabilité dans le pays. En l'isolant, vous créez de l'instabilité. Donc les Saoudiens, effectivement, demandent la fermeture d'Al Jazeera avec un alignement du Qatar sur leur politique étrangère. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que au pouvoir de ce petit pays, vous avez des personnes qui sont hyper stratégiques et intelligentes et très, très perspicace. Moi, j'appelle ça très riche également, mais j'appelle ça aussi l'antifragilité. Je vous le dis, l'embargo a été une bénédiction pour le Qatar, leur économie est devenue meilleure, ils sont devenus plus forts que jamais, Parce que le roi a dû imaginer et faire preuve de créativité pour créer de nouvelles voies commerciales. Ils ont développé leurs liens avec l'Iran, avec la Turquie et des pays d'Asie pour s'approvisionner autrement. Ils ont aussi lancé des productions de légumes par hydroponique. Donc l'hydroponie, c'est un type d'horticulture et en fait ça consiste à faire pousser des plantes, généralement des cultures et des plantes médicinales sans terre, en utilisant des solutions nutritives minérales à base d'eau dans un environnement artificiel. Bien évidemment, le Qatar n'aurait jamais pu faire ça sans argent. Mais ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Les rayons de supermarché ne manquaient absolument de rien. Ils sont passés de pays importateurs, donc importateurs de nourriture, et désormais ils sont exportateurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est incroyable. Et je pense que c'était la plus belle réponse qu'ils pouvaient envoyer aux autres pays. Et je vous dis, l'émir est devenu une icône par rapport à ça. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé, le dénouement de tout ça? Le Qatar va se protéger en achetant des armes aux Européens, en créant des liens avec les Français, les Anglais et les Italiens, et en envoyant une image très très forte aux pays voisins. Ils vont tout faire pour obtenir la Coupe du Monde dans leur pays. D'ailleurs, ils l'ont eu. Et en fait, c'est fou. Mais vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite copie énormément ce qu'il s'était fait les dernières années au Qatar? Ils prennent quasiment les mêmes décisions. Pour terminer, la crise va durer plus de 3 ans et elle prendra fin en janvier 2021. Ils vont se réconcilier à la descente de l'avion. Et en fait, les chicas, moi je veux vous dire ça, la crise a pris fin sans que le Qatar n'ait fait la moindre concession. C'est le Qatar, ce tout petit pays minuscule, qui a gagné cette guerre passive. Parce que oui, c'était une guerre économique et ils l'ont gagnée. Contre un pays énorme, l'Arabie Saoudite, avec des alliés très forts. Vous voyez, le fait de ne pas être dépendant d'autres pays a rendu le Qatar plus fort. C'est comme si le grand Arabie Saoudite respectait désormais le petit Qatar. Clairement, le Qatar a gagné. Parce que le Qatar n'a pas flanché. Et si on devait prendre cette image pour vous, arrêtez d'être dépendant. Cultivez vos richesses intérieures. Vos richesses intérieures, c'est quoi ? Vos valeurs, votre estime de vous et vos limites. Ça, c'est les richesses qu'avait le Qatar. Il les a utilisées. Soyez perspicaces dans la prise de décision par rapport à ça. Arrêtez d'être dépendant des autres, d'être dans « needy » comme on dit, d'être dans le besoin par rapport aux autres. Ça se ressent et les gens ne vous respecteront pas. Et là, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, je pense, respecte le Qatar. Clairement, respecte le Qatar. Donc voilà, je voulais vous partager cette histoire parce que ça m'a inspiré, ça m'a énormément inspiré. Je vous recommande d'ailleurs, si vous voulez connaître l'évolution de ce petit pays, dans lequel d'ailleurs j'ai fait escale et j'ai passé une nuit qui est complètement incroyable en termes d'infrastructure, qui est incroyable vraiment en termes, ouais, vraiment... C'est un pays qui évolue dans le désert, enfin c'est fou. Je vous recommande, si vous voulez aller plus loin, l'un des derniers épisodes. Je vous le mettrai dans la barre d'information, l'épisode sur le Qatar qui est sur Arte. Arte, sur la chaîne YouTube, vous pouvez le retrouver, il est incroyable. Et puis on passe au 9e point. La 9e raison pour laquelle les gens ne te respectent pas, c'est que tu ne respectes pas tes engagements envers toi-même, évidemment. Un grand, grand auteur, Dostoïevski, disait « Si vous voulez être respecté par les autres, la meilleure chose à faire est de vous respecter vous-même. Ce n'est qu'ainsi, par le respect de soi, que vous obligerez les autres à vous respecter. » Voilà, il a absolument tout dit. Les gens voient que vous vous négligez, ils voient que vous faites des choses mais en réalité vous ne les faites pas, que vous ne tenez pas votre parole envers vous-même, que vous vous mentez à vous-même, que vous n'êtes pas vraiment intègre. Vous allez directement aller dans la case « Bon, cette personne, si jamais je la respecte pas, alors bon, c'est pas trop grave, hein, parce qu'elle se respecte déjà pas elle-même. » Voilà, tout simplement. Respectez vos engagements envers vous-même. Ça demande de la discipline. Et c'est important de développer votre discipline, évidemment. Et le 10e point, et pas des moindres, c'est que tu ne réponds que par la colère. Les gens ne respectent pas les gens coléreux. Pas que ça soit une mauvaise émotion, ça, c'est faux. mais parce que socialement, la colère doit s'exprimer dans le privé. Ce sont des gens, en fait, qui ne savent pas se retenir ou se contenir. Et donc, généralement, les gens n'ont pas envie d'être autour de gens qui sont trop imprédictibles. Dans le trop, d'accord ? Il faut une part de mystère, oui, mais quand on est trop imprédictible par rapport à sa gestion émotionnelle, là, ça peut poser complètement problème. Et ce point-là, il est particulier parce que je pense que c'est un respect qui diminue avec le temps. C'est généralement sur le long terme que le respect se détériore à cause de la mauvaise gestion des émotions. Pour terminer, j'aimerais conclure avec une citation de Donella Meadows, qui est ingénieure, système et spécialiste des sciences de l'environnement, qui a parlé des besoins matériels. Écoutez ça, je trouve que c'est super bien. Ça va nous permettre de faire le pont avec le prochain épisode qui sera sur le charisme. Je cite, « Les gens n'ont pas besoin de grosses voitures. Ils ont besoin d'admiration et de respect. Ils n'ont pas besoin d'un flux constant de nouveaux vêtements. Ils ont besoin de sentir que les autres les considèrent comme attirants. Et ils ont besoin d'excitation, de variété et de beauté. Les gens n'ont pas besoin de divertissement électronique. Ils ont besoin de quelque chose d'intéressant pour occuper leur esprit et leurs émotions. Et ainsi de suite. » Essayez de combler des besoins réels, mais non matériels, identité, communauté, estime de soi, défi, amour, joie, avec des choses matérielles, c'est créer un appétit inextinguible pour de fausses solutions et des désirs jamais satisfaits. Une société qui s'autorise à admettre et à formuler ses besoins humains non matériels et à trouver des moyens non matériels de les satisfaire aurait besoin de beaucoup moins de matériaux et d'énergie et offrirait des niveaux beaucoup plus élevés d'épanouissement humain. Et je trouve que c'est une merveilleuse manière de conclure, parce que, effectivement, le respect, ce sont toutes ces choses-là en réalité. C'est le besoin d'admiration, le besoin de respect, le besoin de sentir que les autres nous considèrent, le besoin d'excitation, de variété, toutes ces choses-là. D'ailleurs, je lance ma formation Charisme Magnétique la semaine prochaine. Je travaille dessus depuis au moins un mois maintenant. J'ai dû même déplacer d'une semaine le lancement parce qu'il y a beaucoup d'informations. Cette fois-ci, j'ai décidé de vraiment la rendre encore plus complète. On va vraiment aller dans le fond des choses. Et en fait, je vous dis, plus je creuse à l'intérieur et plus je me rends compte que c'est un game changer. Qu'on a envie d'être autour de personnes qui sont charismatiques parce que leur vision du monde nous transporte, parce que leur voix nous enchante, leur façon de nous raconter des histoires nous tient en haleine. Donc voilà, je vous en parlerai la semaine prochaine. J'espère que cet épisode t'a plu. Moi, j'ai adoré produire cet épisode. C'était vraiment une joie, malgré mon rhume. Si t'as aimé, n'hésite pas à partager l'épisode en story, à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et la cerise sur le couscous, mettre un avis sur Apple Podcast. Hasta luego!